7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la grossophobie. C'est un mot qui, jusqu'à maintenant, ne figurait dans aucun dictionnaire. Et c'est un cri sur les souffrances sociales des personnes en surpoids. Trop gros pour avoir tel job, trop corpulent pour s'habiller. Les discriminations à l'encontre des personnes en surpoids ou obèse ne diminue pas, alors que paradoxalement, la population mondiale ne cesse de prendre du poids. Avec 650 millions d'obèses en 2016 dans le monde, le surpoids est certes devenu un objet de santé publique majeur, mais pourquoi la société rejette ces personnes à la marge de la vie normale? Le surpoids renvoie-t-il à une inquiétude collective? Que vivent exactement les personnes en surpoids au quotidien? Bien qu'il existe dans plusieurs pays des lois anti-discrimination, nous allons en discuter avec nos invités. Daria Marx, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Gros n'est pas un gros mot » aux éditions Librio et vous avez cofondé le collectif Gras Politique pour que l'ensemble de la société se mobilise sur ce problème, au même titre que le racisme finalement.
C'est une discrimination qui touche aujourd'hui en France 20% de la population, puisque 20% de la population est en surpoids ou en obésité, donc c'est une discrimination dont il faut parler.
Gaëlle Prudencio, également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes blogueuse depuis près de 10 ans maintenant, dans le domaine de la mode grande taille. Vous nous direz d'ailleurs pourquoi vous avez commencé à écrire par rapport à votre propre surpoids, mais pas par le biais des vêtements, hein, pourquoi c'était si important. Et puis vous fédérez autour de vous maintenant une série de blogueuses sur le même sujet. Vous nous direz ce qu'Internet a changé aussi pour réoccuper l'espace public. Les voisines et les voisins, si vous vous sentez concernés par le sujet, on attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. Si vous êtes en surpoids dans votre pays, dites-nous comment vous vous sentez considéré, quelle est l'image de vous que vous vous sentez renvoyé. Nous sommes aussi bien sûr disponibles sur WhatsApp au même numéro, 33 1 84 22 71 71. Et vous pouvez poster aussi tous vos messages sur les réseaux sociaux. Je vous lis quelques messages. Thierry, qui est à Mbujimayi au centre de la RDC, nous dit « Ici, lorsque tu as un gros ventre, on te respecte, on considère que tu es riche. Pour devenir gros, les gens prennent du jus de primus à la viande. Les gros et gras sont appelés ici beaux gosses. Il l'écrit B-O-G-O-S. Mais l'inconvénient, c'est l'hyperglycémie. Alors attention, il faut surveiller sa santé. Julien est à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Julien nous dit, moi de nature je ne suis pas gros, mais chez moi tous ceux qui sont comme moi sont traités de maigres. Les gens pensent que quand on est gros ici c'est signe d'aisance, donc je ne pense pas que les gros soient victimes de discrimination. Bien sûr vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Victor Emmanuel est en ligne en direct avec nous à Cotonou au Bénin. Bonjour Victor Emmanuel.
Oui, bonjour Emmanuel.
On vous écoute, vous nous appelez parce que vous êtes concerné par ce problème ou simplement vous avez eu une opinion sur ce sujet?
Plutôt une opinion parce que, enfin, au Bénin, c'est vrai qu'il y a quelques personnes en surpoids, mais ça a tendance à reculer grâce à la pratique régulière du sport, notamment les week-ends. Il n'y a pas un espace libre qui ne soit pas occupé, notamment les stades, principalement les stades. Alors, s'agissant de ce que ces personnes peuvent ressentir, généralement, c'est au passage de la personne, c'est quelques moqueries, des chuchotements, des blagues, des proverbes et tout. Mais ça ne dure que l'instant de passage de cette personne dans le champ visuel de ceux qui discutent. Mais alors...
Alors attendez, ça ne dure que l'instant. Oui. Vous sous-entendez quoi? Que c'est indolore?
Non, pas du tout. Justement, je veux dire que pour ceux qui se moquent, c'est peut-être rien. Mais c'est vrai que pour la personne forte, c'est blessant. C'est blessant. Et généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils se mettent au sport. Et puis, au-delà de ça aussi, il y a quand même un grand développement des coachs en développement personnel, qui essayent d'aider ces personnes-là à s'assumer telles qu'elles sont. Parfois aussi quelques leaders religieux. Mais tout en leur précisant, il ne faut quand même pas exagérer parce qu'il y a des risques de santé.
Alors, Gaëlle, moi, Prudencio, vous êtes en direct avec nous.
Oui, je voudrais rebondir sur le fait de faire passer les moqueries comme des toutes petites choses qui passent le temps que la personne passe. Parce que on a dans l'imaginaire collectif, en fait, se moquer d'un gros va lui permettre de se prendre en charge. Alors qu'en réalité, c'est juste entraîner cette personne-là vers la dépression, vers du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi et vers une obésité qui va augmenter de plus en plus. Puisque je connais très bien le problème, ayant grandi en Afrique, ayant grandi au Sénégal, ayant l'occasion d'aller régulièrement au Bénin vu que mes parents sont béninois, j'ai vécu des moments où des personnes se moquaient de moi avec dans l'idée de m'aider à prendre conscience de mon obésité. Et en fin de compte, cela n'a fait que m'enterrer chaque jour un peu plus. Et c'est uniquement parce que j'ai suffisamment confiance en moi que j'ai appris à avoir confiance en moi et à savoir que personne ne peut avoir plus de valeur que moi, que j'ai compris que je ne pouvais laisser à personne l'occasion de se moquer et de prendre le pouvoir comme ça. Mais le fait de dire oui, bon, c'est des moqueries, c'est ceci, c'est cela. Bah, imaginez un enfant de 9 ans à qui on dit à longueur de journée tu es gros, tu n'es pas beau, à l'école, les maîtres, les maîtresses sont beaucoup plus méchants parce que moi, j'ai été frappée par une maîtresse parce que je m'étais défendue qu'un enfant me dise que j'étais grosse et que je comptais pour du beurre. J'ai été battue par la maîtresse devant toute la classe et toute mon année de CE1 a été comme ça à cause de cette maîtresse-là qui me détestait du fait de mon poids. Donc, ce ne sont pas des petites choses que de se moquer. Enfin, les petites moqueries, ça n'existe pas, en fait.
À propos du sport, d'ailleurs, Daria Marx, on remarque qu'il y a peu de personnes en fort surpoids faisant du sport parce que justement il y a ce regard social que ces personnes-là, comme n'importe qui, peuvent avoir envie de faire du sport.
Bah, c'est vrai que pour une personne qui est très grosse, ça peut être très compliqué socialement d'aller dans une salle de sport parce que les regards sont très durs. Ça peut être très difficile de se mettre en situation, par exemple, de faire un jogging dans la rue parce que quand on est débutant, évidemment, on va avoir plus de mal et donc les gens vont se moquer. Moi, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose qui a été dit dans le discours, c'est faut pas exagérer. Mais en fait, personne ne cherche à exagérer, personne ne cherche à être gros ou très gros. Vraiment, penser qu'il y a...
Comme s'il s'agissait d'une provocation de la part des personnes en surpoids.
Absolument.
Finalement.
C'est souvent vécu comme ça. Oh, tu te laisses aller, tu exagères. En fait, non. C'est aussi un problème de contrôle. C'est pas une maladie de la volonté. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ce vocabulaire.
Merci en tout cas à vous, Victor et Emmanuel, de nous avoir appelés de Cotonou pour votre contribution. Je vous lis aussi le message d'Ozana, alors tout à fait différent par rapport à ce que nous disait Thierry en RDC, Julien qui nous disait que c'est un signe d'aisance pour les hommes, un signe de richesse, notamment dans des pays où il est vrai, dans certains milieux, pour la majorité de la population, on est encore en insuffisance alimentaire et pendant longtemps, le continent africain était aussi en insuffisance alimentaire. Hein. Je pense que vous ne me démentirez pas, Gaëlle, mais c'est aussi, ça peut aussi être un signe de statut social.
Oui, en fait, en tout cas, d'un point de vue masculin, être en surpoids, c'est un signe de richesse. Pour les femmes, cela dépendra de l'âge du stade auquel la femme est dans sa vie. Donc quand on est jeune, il vaut mieux être plutôt une grande liane fine. Et quand on a des enfants, là, on peut se laisser aller à être grosse. En fait, on a atteint un certain niveau dans la société qui fait que on va accepter les personnes en surpoids. Mais en réalité,
plus conforme du coup à l'image maternelle qui règne sur sa tribu, qui a eu de nombreux enfants, etc.
Le côté femme qui est bien dans sa peau, qui est aussi qui a une vie sexuelle épanouie, qui est juste une femme, bah en fait on la retire complètement quand on est obèse quoi.
Un message de Ozana Anjamena au Tchad. Il nous dit: le surpoids est un sujet de moquerie ici au Tchad. Les gros sont peu respectés. On pense que c'est une malédiction. Donc même au quartier, tu n'auras pas d'amis. Les gens te fuient. J'ai postulé dans une société. Le jour du test, les personnes en surpoids ont été systématiquement refusée car le travail nécessitait quelqu'un qui se déplace très vite. Donc oui, les gens trop gros souffrent. Et ça, finalement, on ne lit pas tant que cela des témoignages de ce type sur le continent africain. Ça vous surprend ou pas, Gaëlle Prudenceau?
Ça ne me surprend pas parce qu'on a quand même une culture du silence. Et de la pudeur. Enfin, moi, étant blogueuse depuis un certain nombre d'années, je sais que je dérange du fait d'être blogueuse sur de la mode, en plus sur déjà de la mode qui est considérée comme quelque chose de futile. Mais en plus de ça, en me mettant en avant, en disant je suis bien dans ma peau, je suis grosse, je suis bien dans ma peau, on va souvent me dire que je fais de l'apologie de l'obésité. Mais derrière, on ne prend pas en compte tout le
alors que c'est
quotidien.
L'inverse, c'est le retour de l'estime de soi, refabriquer de l'estime de soi qui au contraire participe à votre bien-être, y compris santé.
Complètement. Et aussi une prise de conscience quand on va parler, c'est vraiment important de pouvoir parler de la discrimination en milieu professionnel, quand on va parler d'aller chercher, trouver un emploi, passer un entretien, Daria pourra en parler aussi.
On va en parler justement, bien sûr, avec vous deux, Daria Marx et Gaëlle Prudenceau. Daria Marx, donc vous publiez Gros n'est pas un gros mot, chronique d'une discrimination ordinaire. Quelles sont aujourd'hui les principales discriminations relayées par les personnes en surpoids dans un pays comme la France?
Alors en France, ce qui revient le plus, c'est la discrimination à l'embauche. Ça a d'ailleurs été documenté par des études sociologiques sérieuses qui prouvent que les femmes grosses sont 10 fois plus discriminées à l'embauche et les hommes gros 6 fois plus que les gens qui ont un poids dit normal. Et puis il y a tout le problème de l'accès aux soins, de la grossophobie médicale. Ce sont vraiment les deux dossiers qui reviennent beaucoup quand on écoute les gros et les grosses en France parler.
Que dit la loi concernant les discriminations à l'embauche ?
Alors la loi est assez floue puisqu'il est interdit de discriminer à l'embauche pour un motif d'apparence physique. Le problème c'est qu'on ne rentre pas dans les détails de cette apparence physique qui peut être discriminatoire.
Ça c'est la loi de 2001. Hein.
Absolument. Mmh. Et donc nous ce qu'on aimerait c'est que
Et le code pénal également.
Absolument. Mmh. Ce qu'on aimerait c'est que le terme de grossophobie soit dans la loi et qu'on ne puisse pas discriminer sur un critère de poids et que cela soit écrit noir sur blanc dans la loi pour affiner ce critère d'apparence physique.
Ça veut dire que c'est très compliqué de prouver qu'une personne a raté son entretien d'embauche à cause de son surpoids, par exemple?
C'est très compliqué parce qu'il y a deux cas de figure. Soit l'entretien est frontalement grossophobe avec des paroles qui sont terribles, mais on n'a pas d'enregistrement, on ne peut pas prouver les choses. Soit on vous pose des questions qui sont un peu biaisées, mais qui s'appuient sur les clichés grossophobes. Par exemple, moi, on me demande « Mais vous êtes sûr que vous êtes dynamique ?» Mais pourquoi on me demande ça? En fait, c'est parce que je suis grosse et que dans le cliché des gens, la grosse n'est pas dynamique. Et donc, moi, je suis obligée d'en faire 3 fois plus en entretien, en sautant partout comme un petit diable, en disant, mais oui, mais bien sûr, je suis dynamique, aucun problème. Je suis obligée d'en faire plus.
Vous n'avez pas besoin de ça à la radio. Je vous rassure, Daria Marx.
Merci. Et moi, j'ai même pris l'habitude, quand je vais en entretien, de moi-même, en fait, couper l'herbe sous le pied de mes interlocuteurs en disant, oui, je sais, j'ai pas l'air, mais je suis très dynamique. Comme ça, voilà, je sors la question.
C'est-à-dire que votre entretien d'embauche, vous le construisez aussi en fonction de votre apparence physique?
Évidemment. Et en France, on donne beaucoup de conseils aux gens sur leur apparence physique pour les entretiens, ce qu'il faut mettre, comment il faut se coiffer, pour les femmes, la longueur de la jupe, les choses comme ça. On est dans une société qui accorde beaucoup de poids, c'est pas un jeu de mots, à l'apparence.
Est-ce qu'aux États-Unis, le marché du travail est plus favorable aux personnes en surpoids, qui sont beaucoup plus nombreuses?
Je ne sais pas s'il est plus favorable. Ce que je sais, c'est que aux États-Unis comme en France, l'obésité, c'est une question de précarité. Ce sont les personnes qui sont pauvres et qui ont moins accès à l'argent et aux moyens financiers pour acheter de la nourriture de qualité qui sont obèses. Et donc, les gens obèses sont discriminés à l'embauche, donc ne touchent pas d'argent, donc mangent mal, donc sont obèses, donc sont discriminés à l'embauche, donc n'ont pas d'argent.
Oui.
C'est vraiment le serpent
qui se prend. Mais aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de gens aisés qui sont en fort surpoids et une entreprise n'a pas intérêt à se priver d'un talent au nom d'une apparence physique quelconque.
Après, pas vraiment le choix en même temps, puisque je pense que c'est 70% de la population qui est obèse. Donc à un moment donné...
Aux États-Unis?
Oui, je pense.
Vous n'êtes pas autant quand même, il faut rechercher.
Parce que c'est vraiment... je pense qu'à un moment donné, ils n'ont pas le choix et qu'ils sont obligés de recruter toutes les personnes qui vont...
En France, une personne qui a le sentiment qu'elle a raté un entretien d'embauche ou qu'elle aurait été licenciée à cause d'une prise de poids jugée trop importante, par exemple, a la possibilité de saisir le défenseur des droits? Est-ce que ça peut aller plus loin judiciairement parlant?
Ça peut aller plus loin judiciairement si on arrive à prouver la discrimination, ce qui est malheureusement très compliqué.
Dans les faits, ça veut dire
dans
que...
les faits, c'est
Il n'y a quasiment pas de précédent.
À part avoir une lettre recommandée de l'entreprise, j'ai marqué « je ne vous prends pas parce que vous êtes grosse et moche », ça va être très compliqué à prouver.
Globalement, dans nos sociétés, en France et ailleurs, comment se fabriquent ces préjugés collectifs ?
C'est déjà, dès l'enfance, on intègre le fait que quand on est gros, on n'a pas de volonté, qu'on est moins que rien, qu'on fait que manger à longueur de journée. Donc au fur et à mesure, tout le monde est grossophobe à un moment ou à un autre. Enfin, je pense.
Il y a une étude récente qui est sortie qui prouve que dès 4 ans, les enfants savent déjà identifier les personnes grosses comme des gens fainéants, moches, etc. C'est-à-dire que très très tôt, en fait, dans l'enfance, on nous apprend que les gens qui sont gros n'ont pas la même valeur que des gens qui ont un poids normal, et c'est très grave. Et les clichés, ils se construisent un peu différemment qu'auparavant, parce qu'on est dans une société une société de surconsommation, etc. Donc les obèses, les gros ont parfois l'image de ces êtres complètement qui surconsomment, qui mangent des Big Mac toute la journée, etc. Alors que c'est faux, c'est encore un cliché. Et donc tout se mélange un peu pour faire de l'obèse la nouvelle tête de Turc, quoi.
L'école est vous démontrez bien Daria Marx dans votre livre que effectivement ça commence très tôt dans la famille, et là c'est pas le regard de la société, c'est d'abord le regard de sa propre famille. L'école est très vite un lieu de grande violence, avec les moqueries que vous avez d'ailleurs raconté, Gaëlle Prudencio, en début d'émission. Une étude américaine que vous citez, Daria Marx, de l'université du Connecticut en 2017, démontre que les personnes harcelées à l'école en raison de leur poids ont deux fois plus de risques d'être obèses une fois adultes.
Et bien sûr, et c'est malheureusement ce que les gens peinent à comprendre, c'est que l'attitude grossophobe des gens, les remarques, les insultes dont on parlait un peu plus tôt dans l'émission, tout cela en fait fait du mal aux gens qui sont gros et les entraîne dans une spirale de dépression, éventuellement de troubles du comportement alimentaire qui vont les faire manger encore plus. Et donc la grossophobie crée de l'obésité. Donc si vraiment vous vous inquiétez pour le nombre d'obèses dans votre pays, une bonne solution c'est d'arrêter d'être grossophobe.
Il existe dans plusieurs pays des pensionnats pour enfants obèses, d'ailleurs, qui ont été largement montrés à la télévision dans des reportages comme étant des remèdes qui peuvent fonctionner. Ce sont des idées qui ont été inventées par le corps médical.
Oui, ce sont des idées
que vous dénoncez, vous.
Qu'on dénonce le problème de même si l'idée peut paraître séduisante, parce que c'est vrai que pourquoi pas, après tout, si ça fonctionnait. Le problème, c'est qu'on tire les enfants de leur milieu social, de leur famille, pendant par exemple un an, on leur fait perdre du poids, et après on les remet dans ce milieu où rien n'a changé. Donc les enfants reprennent du poids, parce qu'en fait, quand on a un enfant gros, c'est toute la famille qui doit travailler à son mieux-être, c'est pas l'enfant qui est responsable. Quand on a 4 ans, on va pas tous seul au McDo s'empiffrer de Big Mac. C'est la famille qui est responsable.
Et d'autant plus que c'est tout un processus que de perdre du poids, c'est d'abord se poser la question du pourquoi je mange et pourquoi est-ce qu'on va mettre un enfant de 4 ans ou même un adolescent au régime. Enfin, moi, j'ai fait mon premier régime à 7 ans.
À 7 ans.
Oui, et c'était...
C'est-à-dire imposé par vos parents ?
Par le nutritionniste, parce que l'autorité médicale a fait que, Gaëlle est grosse, ça va pas du tout. En grandissant, elle va être obèse. Donc, premier régime à 7 ans avec des sachets hyperprotéinés. Ce qui fait que dans ma vie, à 20 ans, j'avais perdu à peu près 150 kilos à force de perdre et de reprendre du poids à force de régime. Et qu'à 20 ans, j'avais la poitrine qui tombait déjà, des vergitures. Enfin, c'est quand même terrible, d'autant plus que je n'avais pas fini ma croissance.
Et ça, c'est pour pas de résultats. Pour pas de résultats, finalement.
Pas de résultats, et puis surtout un manque d'estime qui est assez criant.
C'est pour ça que vous avez créé votre blog il y a plus de 10 ans maintenant, Gaëlle Prudencio.
Oui, c'est vraiment parce que j'avais besoin de me réapproprier mon corps.
Et pour dire à la société qu'elle se trompait aussi, d'une certaine manière.
Qu'elle se trompait déjà sur moi. Pour pouvoir m'exprimer sur...
Que vous pouviez exister autrement que par votre surpoids.
Alors c'est marrant parce que du coup aujourd'hui toute mon activité est autour de mon poids, mais c'est parce que je me suis approprié ce poids-là et que j'ai décidé que ce n'était plus, que ça ne serait plus un frein. Tout à l'heure, on parlait de sport. Je fais des courses. J'ai participé à la Parisienne, à Odysseia. Voilà, ça, mon poids ne me limite en rien. Et ça, c'était important aussi de pouvoir de le prouver. C'est terrible d'ailleurs de dire que j'ai besoin de prouver que je suis capable de pour être acceptée par la société. Mais en quelque sorte, j'ai pris ma place. Et même si j'avais pris beaucoup de place,
arraché
avec mon corps,
avec les dents.
Oui. Oui, vraiment. Ça a vraiment été ça. Et aller à l'encontre de ma culture aussi, puisque je parlais tout à l'heure d'une culture du silence, d'être blogueuse, d'être une femme noire, d'être africaine, et de poser en maillot de bain sur Internet, ça fait beaucoup de choses. Mais en fin de compte, c'est vraiment payant pour moi et pour les personnes qui me suivent.
En même temps, vous vous exposez aussi, forcément, sur les réseaux sociaux, à une volée d'insultes qui continue, malgré la reconnaissance dont vous jouissez par une partie de la population.
Oui, j'ai vraiment le souvenir, j'en parlais tout à l'heure, d'une de mes photos en bikini qui circulait sur une page Facebook qui est gérée en Côte d'Ivoire. Et là, j'avais eu des milliers d'insultes par rapport à mon poids. Alors, il y avait plusieurs choses. Il y a le poids, il y a le fait. Alors, il semblerait que j'ai un diabète de type 3. je ne sais pas ce que c'est.
Et ça se voit sur la photo, Gaëlle.
Absolument. Voilà. Donc, rien qu'avec l'apparence d'une personne, on décide que cette personne-là est en mauvaise santé. Que j'allais mourir d'un accident cardiovasculaire 2 jours après. Donc, ce poste date d'il y a 3 ans. Je suis encore là. Tout va bien. En tant que femme africaine, je n'ai pas à montrer mon corps. Donc, ça, on peut en reparler aussi. Finalement, c'est prendre, essayer d'avoir une espèce d'ascendant sur quelqu'un qui, en fait, essaie de s'en sortir, tout simplement, et de dire, écoutez, moi, je démarre dans la vie avec ça comme handicap, et bien voilà ce que j'en fais. Et on a un peu de mal avec ça, en fait.
Cette résilience, elle fait du bien aux autres qui vous ressemblent.
Qui me ressemble et qui ne me ressemble pas. Parce que parmi les femmes qui me suivent, même les hommes, il n'y a pas que des gros et des grosses, il y a du tout. Et en fin de compte, ça ressemble en fait. Parce que quoi qu'il arrive, on a tous des insécurités. Et le but, c'est quand même qu'on essaie...
Et des fragilités,
des faiblesses. Et qu'on essaie de vivre avec ça et de se lancer dans la vie comme on peut. Quoi.
Daria Marx, Internet, ça a été un énorme espace d'expression pour les personnes en surpoids. Pas que les personnes, d'ailleurs, en surpoids. Mais ça a été, effectivement, parce qu'on le disait, il y a quand même un paradoxe. On est sur une planète où il y a de plus en plus de personnes en surpoids. Donc, cela devrait participer à ce qu'elles se sentent plus confortables, comme on dit en anglais, et en réalité, ces personnes en surpoids sont totalement invisibles dans certains mondes, dans le monde de la télévision, du cinéma, des séries télévisées, enfin, à part quelques exceptions près.
Ou alors, c'est qu'on nous traite, en gros, le gros dont on se moque.
Oui, c'est un téléfilm sur le fait qu'elle va maigrir et qu'elle sera beaucoup plus heureuse une fois qu'elle aura perdu 40 kilos.
Et plus acceptable par la société.
Voilà, oui. Donc c'est vrai que c'est très étonnant, et souvent, les gens me disent « Ah, mais moi, j'en vois pas trop des gros, mais c'est en fait... » On a tellement l'habitude de se rendre au plus petit parce que rien dans la société n'est fait pour nous. Des transports en commun, en passant à la table du médecin, enfin vraiment rien n'est fait pour nous dans la société. Donc les gros passent leur temps à faire des parties de Tetris, à se demander comment ils vont rentrer dans les espaces qui leur sont accordés. Et ça participe à la silenciation des gros. C'est-à-dire que
c'est un calcul dans la vie quotidienne, ça ?
Bien sûr. Tous les jours, moi, quand je sors dans l'espace public, je fais un Tetris. Je me dis, est-ce que je passe entre ces deux voitures ? Est-ce que cette chaise avec des accoudoirs va céder sous mon poids ou va me faire des bleus aux hanches parce qu'elle est trop petite ? Est-ce que si je m'assois à côté de cette personne, je vais me faire insulter parce que je suis grosse et que je déborde sur son siège ou pas ? Les gens ne se rendent pas compte que... On sait qu'on est différent, en fait. Les gens veulent nous le rappeler en disant « Hey, tu sais que t'es grosse ?»
Oui, en fait, on vit avec nous-mêmes. On se voit tous les matins dans le miroir, on vit dans notre corps. Enfin, prendre l'avion, c'est infernal. Il faut demander une ceinture. Il y a une de mes abonnées qui me disait qu'elle a demandé en classe business une deuxième ceinture pour pouvoir s'attacher, être en sécurité. Et l'hôtesse de l'air l'a maltraitée pendant tout le vol. Elle l'a vraiment traitée comme une moins que rien. Et ça, c'est, enfin, moi aussi, c'est du vécu, quoi.
Vous nous appelez les voisines, les voisins. Si vous vous reconnaissez dans les témoignages de nos invités, Gaëlle Prudencio, Daria Marx. Daria Marx, vous publiez « Gros n'est pas un gros mot ». Quel est le regard de la société à l'heure actuelle sur le surpoids? Comment participe-t-il aussi à la souffrance des personnes en surpoids? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Blondie, Fally Ipupa, Kanouche et 7 milliards de voisins. Nous sommes en compagnie de Daria Marx qui signe « Gros n'est pas un gros mot », chronique d'une discrimination ordinaire. Et Gaëlle Prudencio, blogueuse, célèbre sur la toile. Vous avez aussi créé une marque de vêtements grande taille. Vous avez commencé d'ailleurs, Gaëlle Prudencio, à écrire sur votre surpoids, sur votre obésité, à cause des vêtements d'ailleurs. C'était le premier problème pour vous.
Oui, c'était le premier problème parce que j'avais envie de m'habiller comme tout le monde et je trouvais pas, dès l'âge de 12 ans, je pense que j'ai jamais fait même une taille 38, non, j'étais déjà au 42 en fait à 12 ans et en plus je chose du 43, donc imaginez. Je me souviens d'être une fois d'avoir un mariage à Dakar et d'avoir une tenue qui était cousue pour moi. Donc du sur-mesure, et peut-être 10 minutes avant de sortir de la maison, la fermeture a craqué. Et je n'avais rien d'autre à me mettre pour ce mariage-là. Et vous savez comment c'est les mariages en Afrique, on est sur le 31. Et là, j'ai été prise d'une crise d'angoisse. Je me suis mise à hurler, à pleurer, à maudire, mais tout ce que je pouvais. Et j'ai vu à quel point ma mère était attristée par ça, d'ailleurs. Et là, je me suis dit, non, c'est la dernière fois, en fait, que ça m'arrive, ça. Et c'est comme ça que j'ai, au fur et à mesure, commencé à chercher sur Internet des façons de m'habiller, des bons plans. Et j'ai trouvé des communautés en ligne où les femmes se congratuler, se donner des bons plans. Et vu que je voyais un peu celles qui postaient ce qu'on appelait à l'époque les tenues du jour, elles postaient leurs tenues sur Internet, elles avaient beaucoup de réactions bienveillantes et positives. Et moi, j'en avais beaucoup manqué de ça. Donc, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de poster ma photo. Et j'ai commencé comme ça en octobre 2007.
Vous avez eu tout de suite eu des réactions positives?
Oui. Tout de suite, c'était...
Et pas que deux personnes qui étaient dans la même situation que vous.
Alors là, à l'époque, c'était j'étais sur une communauté, donc c'était très... c'était un petit cocon, hein. Donc là, c'était que des grosses qui étaient très, très sympas avec moi et tout. Et j'avais un peu honte, en fait, de partager mon blog avec les autres. Et c'est au fur et à mesure que des personnes qui me connaissaient par ailleurs ont commencé à découvrir ce blog-là et ont commencé à le partager. Et là, finalement, je me suis dit, ok, je sors parce que c'est aussi ça, d'apprendre à s'accepter, c'est de sortir de ce cocon-là. Enfin, je l'appelle un peu le cocon de Grèce, de sortir de ça pour aller voir ce qui se passe dehors, quoi.
Sur la toile, d'abord. Daria Marx, est-ce que la France est dans une situation particulière par rapport à la Grande-Bretagne où les grandes chaînes de magasins proposent des grandes tailles systématiquement partout, de très grandes tailles, ou les États-Unis. Est-ce qu'il y a un problème spécifique en France par rapport au surpoids?
La France,
où il y a une longue tradition d'esthétisme, de mode.
La France est le pays de la mode pour tout le monde, sauf dès qu'on dépasse la taille 42. Parce qu'il faut savoir qu'en France, au-delà d'un 42, on est considéré comme une grande taille.
Ça n'a pas toujours été le cas, historiquement d'ailleurs.
Historiquement non, et puis surtout les tailles ont évolué, donc un 42 d'aujourd'hui n'est pas le même qu'un 42 d'il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, des femmes qui font un 42, qui n'est absolument pas une grande taille, je le répète, se font mettre dans la section grande taille, ce qui est hallucinant. Et alors quand vous dépassez le 48, c'est le désert. Aujourd'hui, je vous mets nue dans la rue à Paris et vous faites un 48. À part prendre des trucs un peu trop petits et tirer dessus, vous n'allez pas pouvoir vous vêtir. Et quand vous faites un 56, vous restez nu en fait.
Comment expliquer que les leaders de l'habillement comme H&M refusent de répondre à une demande aussi importante de la population?
Alors chez H&M, c'est bien le paradoxe et le drame, c'est qu'ils ont une ligne grande taille, ils ont une ligne qui va jusqu'au 56, jusqu'à récemment, ils avaient enlevé cette ligne de tous les magasins et on ne pouvait plus l'acheter qu'en ligne.
Et des magasins, je précise quand même, des magasins qui sont en centre-ville, donc il y a énormément d'enseignes qui ont des sections et des rayons grande taille, qui laissent ces sections grande taille en banlieue, mais nous ne sommes pas invités dans les magasins dans Paris. Alors là, je sais qu'il y a un nouveau H&M qui a ouvert et qui a le rayon grande taille maintenant, mais c'est tout un travail de dire aux obèses, on veut bien de votre argent, mais attention, on ne veut pas de vous dans nos magasins.
Ne venez pas gâcher l'image de notre joli magasin avec vos grosseurs disgracieuses. C'est un peu ce qu'on reçoit comme message.
Vous militez contre ça, l'une et l'autre, puisque vous êtes militante?
Moi, c'est par rapport à mon blog, en montrant déjà... Enfin, ce que je trouve aberrant, c'est que la plupart du budget des femmes grosses aujourd'hui en France part à l'étranger. C'est quand même incroyable qu'on fasse tout notre shopping en Angleterre, aux États-Unis, parce que ce sont eux qui répondent à cette demande-là. En fin de compte, ce qu'on veut, c'est juste s'habiller comme notre ami qui fait du 36, quoi. Et donc, moi, j'ai mon blog où je poste des bons plans, etc. Et aujourd'hui, j'ai créé ma marque de vêtements parce qu'en fin de compte, je ne trouvais pas aussi des vêtements qui me plaisent dans le wax, alors que finalement, en Afrique, on porte beaucoup de wax, que les femmes rondes portent du wax à bac, c'est super beau, mais cette tendance-là en Europe, aux États-Unis, n'est pas permise aux grosses. Et quand je voulais du prêt-à-porter en grande taille et dans du wax, en fait, je n'en trouvais pas.
C'est ça. Donc, une injonction d'invisibilité, une injonction de couleur sombre, tout est injonction pour vous.
Oui. Aujourd'hui, par exemple, je porte un crop top, donc il fait chaud. Il fait chaud, du coup, je porte un top où on voit un bout de mon ventre et mes bourrelets dans le dos. Et il y a quelques jours, une styliste célèbre à la télévision a dit à l'une des candidates de son émission, alors elle, on voit ses bourrelets dans le dos, c'est pas du tout élégant ça. Et cette femme, en plus, faisait, je pense...
On est vraiment en plein dans la subjectivité, finalement.
On est dans la subjectivité, mais c'est de la grossophobie ordinaire, typiquement.
Oui, et puis Gaëlle, si je peux me permettre,
Vous nous appelez, les voisins, les voisines, je vous redonne notre numéro de téléphone. Si vous voulez réagir par rapport à ce que disent nos invités, le thème de l'émission, c'est la grossophobie, vous venez de le dire, c'est clair. 33 1 84 22 71 71, Daria Marx.
Oui, ce que Gaëlle pointe très bien du doigt, c'est que quand on est une femme et quand on est grosse, on souffre à la fois de grossophobie et de sexisme. C'est-à-dire l'injonction sur le corps des femmes qui est terrible, quel que soit votre poids, votre taille, c'est-à-dire il faudrait être dans des standards qui n'existent pas. Donc on court toutes derrière un standard imaginaire, et quand on est grosse, on est tellement loin du standard qu'on court deux fois plus. Donc il y a vraiment une double injonction, l'injonction grossophobe et l'injonction sexiste. Et je pense que quand on est une femme noire, il y a aussi une autre injonction qui se rajoute par là-dessus.
Sans compter que je porte les cheveux naturels et que donc ça se cumule en fait. Parce qu'on va parler d'intersectionnalité et c'est vraiment ça.
Vous êtes pressée aujourd'hui, Gaëlle.
Oui, je suis effectivement. Et avec les autres blogueuses depuis une dizaine d'années, ce qu'on fait, c'est d'habituer le regard des gens à des femmes de tout type de corps. Et je pense qu'on fait plutôt bien le job depuis tout ce temps-là, parce que mine de rien, cette année, on a énormément parlé dans les médias de tout ce qui est mouvement body positive, mais aussi...
Et vous postez des photos magnifiques, il faut le dire.
Oui,
il y a un vrai travail esthétique.
Oui, parce que bon, après, vous imaginez quand vous allez chez quelqu'un et que la personne vous montre ses albums photos, elle vous montre pas des photos d'elle moche. Elle fait le plus, ce qu'il y a de plus. Et donc voilà, effectivement, moi, ce que je veux, c'est de montrer que déconstruire en fait cette image-là qu'on a du gros qui n'est pas beau, qui fait sale, qui est fainéant. Voilà, moi, c'est tout le contraire. On tend à valoriser les femmes grosses.
On va parler de l'alimentation, on va parler aussi du corps médical, bien sûr. C'est pas une émission de santé, mais vous avez beaucoup de choses à dire sur la culpabilisation du corps médical. Depuis plusieurs années, il est vrai aussi que les études ont montré qu'il y avait un lien, par exemple, entre le diabète et le surpoids. Vous allez nous expliquer aussi comment, du coup, ces études redeviennent une forme de culpabilisation de la société tout entière par rapport à vous. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
On est en ligne avec une voisine qui nous appelle de Bamako. Bonjour Fatou.
Oui, bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue Fatou. Vous nous appelez, donc on parle des personnes en surpoids. Nos invités témoignent de ce qu'elles vivent depuis plusieurs années, s'insurgent aussi contre l'attitude de la société tout entière qui véhicule un regard tout à fait négatif, très éloigné de la personnalité de ces personnes-là. Fatou, vous êtes dans une situation de surpoids ou c'est un membre de votre famille ?
C'est ma fille de 13 ans et demi qui est en surpoids.
Oui.
C'est une fille qui n'a pas toujours été grosse. Hein, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'était un enfant normal.
Oui.
Elle était très dynamique, elle était parmi les trois premiers de sa classe. Elle participait à toutes les activités qu'on faisait.
Oui.
Et puis en 2011, on l'a envoyée en vacances aux États-Unis.
Oui.
Après 2 mois de séjour, là, elle a pris au moins 7 à 8 kilos à son retour.
Mm-hmm.
Et les commentaires ont commencé à lui dire, voilà, ça a trop grossi. Et donc, elle a commencé à se renfermer sur elle.
Mm-hmm.
Et malheureusement, elle n'a pas réussi à perdre le surplus qu'elle avait pris. Elle a continué à grossir. Elle mangeait beaucoup. Lorsqu'on essayait de lui faire limiter la quantité de repas, c'était tout un problème. Elle s'enfermait, on sentait que ça n'allait vraiment pas. Et puis, en 2015, on l'a renvoyée aux États-Unis parce qu'on a vu que peut-être ça allait lui faire du bien. Et là, ça a été la catastrophe.
Mm-hmm.
Là, elle en a pris encore 7-8 kilos. Et là, elle est vraiment en surpoids. Elle s'est déconnectée de tout. Elle ne s'intéresse à rien. Elle a 13 ans et demi aujourd'hui. On ne sait même plus quoi faire.
Et aujourd'hui, où vit-elle, votre fille, Fatou ?
Elle vit avec moi à Bamako.
Mmh. Gaëlle Prudencio, comment vous analysez la situation ? Une petite fille qui a pris quelques kilos au cours d'un séjour aux États-Unis, ce qui est tout à fait explicable. Il y a un changement d'alimentation, il y a des boissons extrêmement sucrées aux États-Unis. Jusque-là, rien à signaler. Et puis ensuite, elle s'enferme dans une souffrance du fait du regard social de la société.
Mmh.
Comment vous voyez la situation de cette petite fille aujourd'hui de 13 ans, de cette adolescente ?
Bah, en fait, j'ai envie de demander à Fatou, est-ce que vous lui avez demandé comment s'est passé son séjour aux États-Unis, ce qui fait qu'elle a pris du poids pendant ce séjour aux États-Unis, et comment est-ce que vous l'accompagnez aujourd'hui ?
Quelle est votre attitude en tant que mère, finalement, Fatou ?
Bien sûr, on la rassure, on lui dit que c'est pas parce qu'elle est grosse qu'on l'est moins. On essaie de la rassurer autant qu'on peut. Mais malheureusement, c'est les règles à l'école. C'est surtout les règles à l'école, les moqueries des amis. Partout, oui. Quand on va, même quand on va dans les mariages, dans la famille, elle dit « Ah mon Dieu, qu'est-ce que tu as grossi ?» Donc, elle ne veut même plus sortir.
Ouais, mais je comprends. Voilà. Je connais tellement parce que on est sans filtre en Afrique aussi. Hein. On est très. Je me souviens de la première année quand je suis revenue au Sénégal après mes 3 mois en France. Avant de partir, juste après mon bac, j'avais perdu 15 kilos avec un régime. Et en revenant, j'avais pris 25 kilos. J'étais stressée, je faisais des études, wow. J'étais toute seule dans un pays que je connaissais pas. J'ai une propension à l'embonpoint. Enfin, il y a tout ça. Et une alimentation différente parce que l'alimentation entre le Sénégal et donc avec les États-Unis, la France, etc. C'est différent. Et la première chose qu'un oncle m'a dit quand il m'a vu, c'est « Ah, je pensais que quand on faisait ses études, on perdait du poids. » Ben non.
Moi, sous-entendu, vous n'auriez pas été sérieuse dans vos études.
Voilà, exactement. Mais il se trouve que moi, quand je suis stressée, je prends du poids. Et donc, par rapport à votre fille, Fatou, je vois tout à fait tout
alors,
ce qu'elle vit.
Comment est-ce qu'elle peut sortir de ce cercle infernal ? Parce qu'on voit bien là que finalement, les réactions de la société, de l'entourage, la précipitent vers le surpoids, finalement.
Moi, je pense qu'il y a le fait peut-être de lui trouver des activités où elle s'épanouit, de voir avec elle ce qu'elle aime. Comment est-ce que elle peut retrouver de l'estime d'elle-même. Moi, j'ai eu de la chance en seconde de tomber sur un professeur de théâtre, enfin d'histoire géo et de théâtre, qui m'a permis de faire du théâtre au lycée. Et j'allais rater mon année de seconde. Et le fait de m'inscrire, parce que beaucoup de body shaming, beaucoup de moqueries à l'école.
Mmh. Body shaming, les moqueries sur le corps. Hein.
Voilà, exactement. Quand j'allais au tableau, c'était la grosse, puffy. Enfin, ils se reconnaîtront parce que je pense qu'ils m'écoutent, vu qu'ils sont tous amis avec moi sur Facebook. Donc, il se trouve que ce professeur-là m'a permis de m'inscrire au cours de théâtre. Et là, ça m'a complètement changé la vie. Parce que je pouvais m'exprimer. Parce que je pouvais prendre des rôles.
Et exprimer votre talent.
Voilà, exprimer un talent. Voilà. Mais peut-être, oui, lui trouver une activité où elle va s'épanouir.
Où elle devient autre chose qu'une fille en surpoids,
exactement.
Finalement.
Exactement. On va la voir autrement que juste avec son poids.
Daria Marx.
Oui, et puis Fatou, si je peux me permettre un conseil, c'est qu'il faut que vous, d'abord, vous soyez convaincue que votre fille est belle, que vous l'aimez. J'en doute pas un seul moment, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à lui montrer que vous la défendez.
C'est pas facile, quand on est parent, ça, de lutter aussi contre l'image que dégage son enfant.
Mais
dans
non, et puis quand on est parent, on s'inquiète bien naturellement pour ses enfants. On sait que s'ils grossissent, ils vont être discriminés. On est très inquiétés par tout le médical qui nous dit que nos enfants vont mourir, vont avoir le diabète, etc. Donc il y a une espèce de confusion un peu hystérique qui se fait autour de tout ça. Donc je comprends très bien l'inquiétude de Fatou. Mais il faut savoir que si sa fille doit maigrir, on ne sait pas si elle maigrira, mais si elle doit maigrir, elle le fera parce qu'elle sera bien dans sa peau et qu'elle sera réassurée et qu'elle aura une estime d'elle-même. Donc pour ça, il ne faut pas que Fatou hésite. Bah, quand il y a des remarques d'un oncle, etc., à dire bah non, je ne t'autorise pas à faire ça, et à vraiment prendre le parti de sa fille et faire sentir à sa fille qu'elle a une alliée dans sa maman.
De prendre sa défense, oui.
Fatou, est-ce qu'on vous a donné des pistes pour vous rassurer ?
Oui, je pense que ça pourra aller.
Et puis elle a 13 ans. Hein.
Oui.
Donc,
elle aura 14 ans au mois de septembre.
Elle est en pleine croissance.
Exactement.
Voilà.
C'est pas fini tout ça. Ça va continuer de grandir. Ça peut encore bien changer. Ne vous inquiétez pas trop en tout cas.
Merci à vous. Merci à vous, Fatou. Bon courage. Et puis toutes nos amitiés à votre fille adolescente de 13 ans.
Merci beaucoup. Merci
de nous avoir appelés. Trésor nous a posté un message de Cotonou. Il nous dit qu'il est corpulent depuis 5 ans suite à un problème familial et qu'il a un problème avec sa fiancée qui ne lui parle que de ça. On est séparés. Je fais une cure de minceur.
Waouh. Waouh.
Alors,
est-ce que
dans
vous
le
êtes
sujet.
Sûr, César, de... c'est César,
je... c'est Trésor,
pardon, est-ce que vous êtes sûr, Trésor, d'avoir la bonne fiancée ?
Exactement.
L'amour, c'est supporter quelques variations de poids, quelques boutons, quelques cheveux blancs, quelques rides. Les corps changent, mais l'amour ne change pas. Une cure de minceur, si vous y retrouvez, si vous êtes heureux de la faire, tant mieux. Mais si vous la faites sous pression de ne pas être aimé, ça ne va pas vous aider dans votre estime de vous-même. Donc attention à vous, Trésor. En plus, on sait que les cures de minceur, les régimes, souvent on perd du poids et puis on en reprend le double derrière. Donc moi, je vous conseille de faire le tri un peu dans tout ça et de vous demander ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui peut être bon pour votre estime de vous.
Et de trouver une fiancée qui vous aime telle que vous êtes.
Hein. Oui.
Absolument.
Peu importe ce qui se passera plus tard.
Mmh. Absolument.
La vie amoureuse, Daria Marx, vous n'hésitez pas à pointer les paradoxes des hommes, en tout cas en ce qui concerne les femmes en surpoids dans votre livre.
Ah bah oui, il y a un vrai paradoxe. On a beaucoup d'hommes qui aiment beaucoup charnellement, on va dire, les femmes grosses en surpoids, mais qui par contre, socialement, s'affichent avec des femmes qui se rapprochent de l'idéal donné par les médias, grandes, fines, etc. etc. Même des hommes qui vont jusqu'à se marier avec des femmes très minces et qui continuent à avoir des maîtresses qui sont grosses. Donc on est vraiment dans cette injonction de la société.
Abdoulaye nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Vous nous appelez de Dakar, vous êtes en surpoids depuis toujours, avez-vous dit au standard 100 kilos pour 1m80, mais d'ailleurs ces chiffres ne nous intéressent pas du tout. Hein. Ce qui compte, c'est la façon dont vous le vivez, puisque notre sujet, c'est bien la façon dont vous êtes perçu par la société. On vous écoute, Abdoulaye. Parlez bien fort, parce que la ligne téléphonique, malheureusement, n'est pas en notre faveur aujourd'hui, Abdoulaye. Ah, on a un petit problème. Ouais, on a un problème de ligne téléphonique, semble-t-il. Écoutez, je vais lire son message, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission. Vous allez sûrement réagir, mesdames, Daria Marx et Gaël Prudencio. Sa maîtresse le traitait, je lis ce qui était sur l'écran, hein, de gros tas, c'est ce qu'il a donc dit au standard. Il y a des moqueries du genre, tu devrais faire du sport. En voiture, on lui dit qu'il prend trop de place.
C'est terrible. C'est terrible parce que, on s'intéresse pas trop au ratio poids-taille, mais en soi, ça reste important parce que c'est par rapport à ça que les personnes, enfin, que les médecins décident que telle ou telle personne est en surpoids. Mais en réalité, il y a aussi ce qu'on appelle le poids de forme. Il y a un poids auquel on est bien dans sa peau, où même psychologiquement, on se sent bien aussi.
Ce que vous dites beaucoup, toutes les deux, finalement, et ça c'est un message au corps médical, c'est que l'injonction de la minceur, ou en tout cas de l'amaigrissement, au nom de la santé, puisqu'aujourd'hui c'est très médiatisé l'enjeu de santé publique par rapport au surpoids, est contre-productive pour vous. Est-ce que j'ai bien compris ou pas, Daria Marx?
Oui, parce qu'en fait, la santé c'est quelque chose de beaucoup plus large que le rapport poids-taille, en fait. La santé mentale, la manière dont on se sent dans son corps, la manière dont on arrive à faire des choses avec son corps, sont des données très importantes dans la globalité de ce qu'est la santé. Moi, mon corps aujourd'hui, il me permet de faire ce que j'ai envie de faire, et j'ai beaucoup de chance, et je suis très heureuse de ça. Pour moi, c'est ça, être en santé. Et d'ailleurs, on peut être malade et en santé, selon la définition de l'OMS. Donc, il faut arrêter avec ces injonctions au healthy, à la santé, à la détox. C'est culpabilisant, c'est contre-productif.
Vous menez des vies très actives, de militantes d'ailleurs. Aujourd'hui, vous le dites toutes les deux, c'est le problème de toute la société. Pourquoi donc ?
D'abord, il y a des gens qui sont concernés, donc qui sont gros ou grosses et qui prennent directement la grossophobie dans la figure tous les jours. Et puis, il y a tous ceux qui ont peur de devenir gros et qui donc deviennent grossophobes parce qu'ils ont tellement peur de devenir gros, parce que c'est tellement mal vu dans la société, que finalement, par ricochet, on souffre aussi et ont des comportements problématiques à cause de ça.
Mais par exemple, toutes les deux, qu'est-ce que vous demandez au nom des associations, au nom des collectifs que vous représentez ?
Moi, je suis pour les campagnes de sensibilisation, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. etc. Je suis pour l'éradication de l'obésité, mais pas pour l'éradication des obèses.
Exactement.
Voilà.
Oui, c'est un peu la même chose que Gaëlle. On est pour la lutte contre l'obésité, mais on n'est pas pour la lutte contre les obèses. Et le problème en France, c'est qu'on tape sur les obèses au lieu de taper sur l'obésité. Nous, on demande plus de représentation, on demande des lois contre les discriminations, on demande un meilleur accès aux soins, un meilleur accès à l'embauche, et on demande tout simplement, en fait, à être traités comme des citoyens et des citoyennes normaux, et pas être des citoyens et des citoyennes de seconde zone. C'est assez simple, on demande juste le respect. Et pourtant, on est obligé de le réclamer aujourd'hui.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez un devoir finalement de porte-parole au nom d'une population trop souvent rendue invisible?
Oui, et c'est 100% assumé. J'entends souvent des personnes qui vont dire non, mais moi je parle pas de mode grande taille, je parle que de mode, je veux pas être reliée uniquement à mon poids, mais en fait c'est mon corps qui me porte.
C'est pas trop lourd à porter, toutes les deux,
eh bien,
ce devoir-là?
Aujourd'hui non, parce que je suis convaincue de ce que je fais, et je pense que c'est Daria aussi, et qu'il y a tellement d'enjeux derrière que c'est important.
Merci à toutes les deux, en tout cas, d'être venues dans l'émission 7 milliards de voisins. Daria Marx, vous publiez « Gros n'est pas un gros mot ». Gaëlle Prudencio, on vous retrouve sur Internet,
oui,
sur votre blog.
Oui.
Évidemment, tous les liens et votre marque de vêtements sont sur la page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, je reçois Alexandre Mars, un patron français qui a fait fortune aux États-Unis et qui se mobilise pour une société plus équitable.